Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Victoria Arias, plus connue sous son nom d'emprunt Mango and Salt. Depuis bientôt 10 ans, Victoria partage ses découvertes et ses coups de cœur avec sa communauté. Initialement blogueuse, elle est aujourd'hui créatrice de contenu pour les réseaux sociaux, autrice et podcasteuse. Victoria prône l'art du slow living, de la slow life, ce mode de vie qui vise à se recentrer sur soi-même, à s'écouter et à se faire du bien. Au fil de cet épisode, Victoria nous raconte tout simplement son cheminement et comment elle a, petit à petit, inclus l'écologie dans son quotidien. J'espère que cet épisode doux et apaisant vous plaira. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Victoria.
Bonjour Jeanne.
Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic. Tu fais partie des invités que j'avais très envie de recevoir et puis que j'ai mis du temps à contacter. Voilà, sûrement l'envie aussi de bien installer Basilic, que ça prenne plus d'ampleur, etc. Donc, tu es à la tête du blog, initialement du blog Mango and Salt et aussi un compte Instagram, un podcast, un bouquin, etc. On va y revenir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour les auditrices et les auditeurs?
Oui, volontiers. Donc, je suis Victoria, j'ai 31 ans. Je suis française, donc je suis née à Paris de parents étrangers, mais du coup, j'ai vécu en France jusqu'à mes 20 ans et quelques. Après quoi, je suis partie vivre à l'étranger. En fait, moi, ça va faire 10 ans que je suis expatriée. J'ai fait d'abord 5 ans à Barcelone, puis maintenant 5 ans à Amsterdam, où je suis toujours actuellement. Donc, voilà. Et puis, effectivement, comme tu le disais, j'ai fondé un blog multi-thématique, maintenant on dit plutôt lifestyle, mais voilà, qui est Mango and Salt. Je l'ai fondé en 2010. À l'époque, voilà, j'avais plein de passions et j'avais envie de partager tout ça dans un même espace. Et puis au fur et à mesure de mon cheminement, je dirais notamment à partir de 2012, c'est devenu un blog surtout orienté vers un mode de vie du coup plus naturel, conscient et responsable. Donc voilà, entre-temps, cette passion s'est devenue mon métier. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu à plein temps. Et puis, comme tu l'as dit, je suis aussi autrice. J'ai sorti un livre qui s'appelle Green Life en 2017. Je suis aussi rédactrice et puis j'ai créé ce podcast aussi, un podcast lifestyle très personnel qui s'appelle Tout ce que j'aime, qui est un petit peu en pause pour le moment depuis quelques mois, mais que j'espère reprendre bientôt.
On espère aussi. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert que tu avais fait des études d'urbanisme,
oui,
ce que j'ignorais, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Pourquoi l'urbanisme? Est-ce que c'était pour cette raison-là que tu t'étais installée à Barcelone dans un premier temps, puis aux Pays-Bas?
Oui, alors en fait, moi j'ai un parcours qui est assez éclectique, on va dire. Je suis vraiment partie un petit peu dans tous les sens. Donc effectivement, j'ai fait des études d'urbanisme, mais en fait au départ c'était pas du tout prévu parce que j'avais, quand j'étais au lycée, j'avais envie plutôt d'être, j'aimais beaucoup écrire, donc j'avais envie d'être journaliste ou rédactrice, quelque chose comme ça. Et j'étais en L, j'avais des bons résultats, du coup mes profs m'avaient conseillé de faire une prépa, donc je suis allée faire une prépa littéraire Hippocagne-Cagne pendant 2 ans. Et pendant cette prépa, j'ai eu une révélation, enfin une découverte de la géographie et plus particulièrement de l'urbanisme, un peu de l'aménagement du territoire en général, qui était un domaine que je connaissais absolument pas et qui m'a vraiment fascinée. J'avais un prof passionnant. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, en sortant de ma prépa, j'ai décidé de poursuivre dans ce domaine-là. Donc j'ai fait Je suis allée en fait à faire un magistère d'aménagement du territoire à l'Institut de géographie de la Sorbonne. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. Et ensuite, la deuxième année, je suis partie en Erasmus à Barcelone. Mais il se trouve qu'en fait, alors j'ai vraiment adoré étudier ces sujets-là. Mais j'ai eu une sorte de deuxième révélation à ce moment-là, c'est que voilà, après un an ou deux, je me suis rendu compte que même si j'aimais beaucoup ce sujet, en fait, le métier auquel ça menait ne me correspondait pas. En fait, globalement, quand on fait ça, la plupart du temps, ça mène à la fonction publique. Et je me suis rendu compte en fait que j'allais pas être heureuse dans ce genre de métier parce que j'avais besoin de quelque chose. Enfin, finalement, quand on travaille comme ça, on travaille dans des collectivités territoriales et on dépend finalement un peu de la volonté politique, tu vois, des pouvoirs qui sont en place. Or moi, je savais que j'avais besoin d'un métier où j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre, quelque chose un peu plus créatif. Du coup, je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas continuer comme ça. Enfin, qu'en tout cas, je pouvais pas continuer sur cette voie-là, et qu'il me fallait quelque chose. J'aimais bien cette idée, voilà, d'ordonner l'espace, de un peu cette idée de design finalement de l'espace, mais pas en tout cas dans quelque chose qui m'amène à la fonction publique. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi à ce moment-là et je me suis rendu compte que je pouvais faire, qui était un peu dans ce même esprit mais beaucoup plus créatif, c'était justement de faire du design, tout simplement. Donc je savais pas exactement quel type, mais design, graphisme, etc. Et c'est pour ça qu'en fait je suis restée à Barcelone, c'est parce que j'étais à ce moment-là en train de faire un Erasmus en Espagne, et quand je me suis renseignée un peu pour essayer de me reconvertir, enfin de recommencer mes études ou d'essayer de, voilà, de faire une passerelle vers d'autres études plus créatives en France, en fait c'était hyper compliqué parce qu'il y avait pas du tout d'équivalence. Donc et en plus, si je voulais si je voulais entrer dans une école, il fallait faire une sorte de prépa, il y avait des concours, voilà, c'était vraiment compliqué. Donc c'était non seulement l'école en soi qui était genre 5 ans, et puis en plus la prépa, si j'y arrivais pas, fallait faire une deuxième année. Enfin, tu vois, ça commençait à faire très long alors que j'avais déjà à l'époque, je sais pas, 21 ans, 22 ans. Donc du coup, j'avais pas envie que ça s'éternise, et je me suis renseignée, et à Barcelone, c'était beaucoup plus simple parce que le système pour rentrer dans l'école était différent. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de rester à Barcelone et de recommencer complètement mes études à zéro en allant faire une école de design. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle Elisava, qui est juste sur la Rambla de Barcelone, en fait. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Je me suis spécialisée en design éditorial, d'ailleurs. Donc, design un peu de magazines, de livres, etc. Autant en papier qu'en digital. Ça a toujours été un peu ma passion, les magazines et tout ça. Et d'ailleurs, mon projet de fin d'études, c'est, je me rappelle, c'était un magazine, une sorte de magazine interactif pour tablette. Donc, au final, voilà. Même si, au final, je suis pas du tout, j'ai jamais vraiment exercé ce métier parce que dès que je suis sortie de mes études, en fait, je me suis lancée tout de suite à temps plein sur mon blog en me disant, allez, c'est le moment ou jamais, je tente ma chance de vivre de ce blog. Donc j'ai jamais vraiment, à part des stages, j'ai jamais vraiment été graphiste en soi. Mais je suis quand même restée un peu dans un domaine similaire, puisque d'une certaine façon, je considère que j'ai un peu créé mon magazine en ligne aussi, tu vois.
Bien sûr, et puis même sur ce que tu disais sur cette dimension de réaménager l'espace, tu t'es aussi créé ton espace avec différents médias, différents supports.
Ouais, exactement.
Mais tu l'as aussi imaginé comme ça, c'est très intéressant. Finalement, tout s'imbrique quelques années plus tard.
Oui, c'est ça. Ça a été un peu, comme je disais, un peu éclectique et un peu random, quoi. Enfin, c'est parti un peu dans tous les sens, mais au final, tout ça, ça fait quand même partie de ce que je suis devenue aujourd'hui, je pense. Donc voilà, finalement, ça a fait sens.
Alors, tu le sais sûrement si tu écoutes Basilic, mais il y a une question que j'aime beaucoup poser à mes invités, qui est de savoir s'ils se souviennent de leur premier geste écolo. Donc, ça peut être un geste dont ils se souviennent pendant l'enfance ou l'adolescence, ou alors plus tard, au début de la vie adulte, n'importe. Mais le premier geste qui les a marqués.
Alors moi, je m'en souviens très bien de mon premier geste qui m'a marqué. Enfin, de manière générale, je sais que dans ma famille, on a été... toujours, enfin, il y avait toujours un peu cet esprit qu'aujourd'hui on peut qualifier d'écolo, mais qui était peut-être plutôt économe à l'époque. Tu sais, dans cette notion de pas gaspiller l'eau, l'électricité, la nourriture, etc. Je pense que c'est une question assez générationnelle de toute façon, parce que voilà, ma maman, elle a été élevée par des parents qui avaient connu la guerre, donc voilà, c'est quelque chose qui s'est transmis par ça. Donc de manière générale, je trouve que j'étais déjà un peu dans cet esprit, mais vraiment le premier geste dont je me rappelle très clairement. Et qui a été un peu la première grande démarche écologique qu'on a mise en place à la maison, c'est que quand j'étais en école primaire, j'ai eu tout un cours, toute une sensibilisation au recyclage et au tri sélectif. C'était au tout début, tu vois, dans le milieu fin des années 90, quand ça a été mis en place. Et du coup, voilà, on a appris ça à l'école. Et du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai expliqué tout ça à mes parents. Et du coup, c'est comme ça qu'on a instauré chez moi le tri sélectif. Et depuis, on le fait évidemment depuis ce moment-là, toujours. Donc voilà.
Donc c'est passé par les enfants d'abord. Et ça, c'est toujours très intéressant. Mmh. Et en fait, ça continue. Hein. Souvent, mes invités me disent, c'est parce que j'ai entendu ma fille me dire ça, mon fils me posait telle question que j'ai eu envie de créer tel produit. Enfin, c'est vraiment très intéressant l'impact que peut avoir l'enfant.
C'est fou, c'est hyper important en fait. Ouais, ouais, ouais. Il me semble, évidemment, ça date de très longtemps, mais il me semble qu'il nous avait même fait visiter, tu vois, un centre de tri. Il nous avait expliqué, tu vois, il nous avait montré comment tout était recyclé, etc. Et ça m'avait fait, tu vois, je m'en souviens encore, ça m'avait fait vraiment un impact assez fort et ça m'avait vraiment intéressé, ça m'avait vraiment motivé à mettre en place ça à la maison, quoi. Donc c'est vrai que c'est une voie importante, je pense.
Toi, tu le disais en début d'épisode, tu as grandi dans une famille multiculturelle. Est-ce que tu penses que ça a nourri aussi ta fibre écolo, le fait d'être confronté à différentes visions, d'être confronté aussi à différentes traditions? Est-ce que ça t'a sensibilisé d'une manière un petit peu différente?
C'est une bonne question. J'avais jamais pensé à l'impact que ça pouvait avoir en termes de ma fibre un peu écologique, etc. Ce que je pense, enfin, il me semble que clairement, dans ma famille, c'est venu plutôt du côté... Enfin, en fait, ma maman est belge et mon père est américain d'origine colombienne. Et en fait, pour moi, cette fibre, elle est venue assez clairement plutôt du côté de ma maman et du côté de la Belgique, justement. peut-être, alors, je sais pas, peut-être parce que la Belgique, justement, est un pays un petit peu plus nordique et donc peut-être à cet esprit un peu plus vert justement qu'ont les pays plus nordiques ou scandinaves. Je pense que c'est ça, parce que moi, par exemple, ma grand-mère, je pense que ma grand-mère a été une figure importante, parce que depuis toute petite, en fait, elle était très elle était passionnée par les plantes. Donc autant les plantes, tu vois, elle avait plein de plantes chez elle qu'elle cultivait, mais aussi les plantes de dehors, de la nature, quoi. Donc dès que j'étais vraiment que je faisais trois pouces de haut, elle m'expliquait. Enfin, on se promenait, elle, tu vois, elle me présentait les plantes, elle m'expliquait ce qu'était tel arbre ou tel, même les mauvaises herbes, etc. Elle connaissait un peu toutes les espèces et elle me sensibilisait beaucoup à ça. Elle me disait, ah bah cette plante, ça peut soigner les verrues. Enfin, tu vois, elle me disait des choses comme ça. Donc il y avait, elle, je sais qu'aussi, elle utilisait beaucoup des remèdes naturels pour se soigner, etc. Donc il y avait vraiment cet esprit un peu... oui, je sais pas si écologique, mais en tout cas naturel dans ce qu'elle me transmettait. Et ma maman est vraiment un peu dans le même esprit. C'est elle aussi, enfin c'est ma maman par exemple qui a mis en place, qui a commencé très tôt, vraiment au moment où ça commençait à peine, à acheter des aliments bio par exemple. Donc je pense que c'est vraiment effectivement probablement la culture un peu plus des pays du Nord qui s'est transmise à travers ça. Après, je sais pas à quel point le côté multiculturel m'a influencé, mais ce qui est sûr, c'est que le côté belge, en tout cas, m'a influencé d'une certaine façon.
D'autant plus que la Belgique est quand même beaucoup plus avancée sur certains sujets que la France. Donc toi, après, dans ta vie adulte, tu as commencé ce blog, alors au départ, plutôt avec l'envie de partager ton quotidien, hein. C'était pas nécessairement axé sur le bien-être.
Oui, voilà, c'était plutôt mes passions, mais c'était des choses plus mainstream. Oui, c'était genre mode, beauté, etc. C'était pas forcément effectivement orienté sur le côté vert ou écolo, quoi.
Et c'est seulement ensuite que tu t'es dirigée vers ce que tu appelles le slow living. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quoi est-ce que ça correspond, cette notion?
Ben, pour moi, je pense que le slow living, c'est vraiment... moi, je le lis avec le fait de s'ancrer davantage autant, enfin, dans la temporalité, dans l'environnement qui nous entoure, et d'être plus conscient des choses. Au contraire d'un mode de vie à 100 à l'heure qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, dans lequel j'étais et je suis encore parfois, mais qui est au contraire vraiment complètement déconnecté, tu vois, de la nature, des autres et surtout de soi, en fait. Donc, concrètement, pour moi, c'est vivre en étant conscient de son impact dans ce qu'on consomme, par exemple, et donc consommer en conséquence, mais aussi retrouver un lien plus profond avec l'alimentation, par exemple. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a été vraiment à travers la nourriture où j'ai eu un déclic par rapport à ça. Une alimentation plus saisonnière, plus de fait maison, etc. Et puis une reconnexion aussi avec son corps, par exemple, en essayant de mieux se connaître, de s'écouter, plutôt que d'être toujours en mode automatique comme ça. Et puis il y a aussi l'aspect peut-être d'être plus proche de la nature, soit par le choix d'où on habite, soit en faisant venir la nature à soi, donc en utilisant des plantes, des choses naturelles, mais aussi par exemple avec le jardinage. Moi, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel à mon bien-être et qui m'apporte justement vraiment cet ancrage, enfin une sorte de, ça apporte une sorte de sérénité et de contact, de connexion directe à la nature et au cycle de la vie, etc. Donc voilà, je sais pas si je suis très claire, mais globalement ça, pour moi, ça englobe un peu toutes ces notions.
Non, c'est très clair. Et ce qui est intéressant, c'est que tu expliques que toi, c'est par l'alimentation en fait que tu as commencé à changer tes habitudes de vie, oui. À te conscientiser aussi. Pourquoi l'alimentation? Est-ce qu'il y a eu un déclic médical, un déclic personnel, un reportage? Souvent, ça peut être un reportage sur, je ne sais pas, par exemple, la viande ou ce genre de choses.
Mais écoute, je ne saurais pas te dire exactement si ça a été un reportage ou s'il y a eu quelque chose de particulier qui m'a... probablement, hein, qui m'a fait prendre conscience. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu un gros déclic. C'était à partir de 2011-2012, donc j'avais voilà 22-23 ans. Et en fait, je me suis rendu compte à l'époque... Alors, j'étais étudiante, donc voilà, c'est aussi un mode de vie particulier, mais je me rappelle que je me suis rendu compte, voilà, j'ai 22-23 ans, et en fait, je suis pas hyper en forme. Je me sentais... bon, j'étais assez sédentaire, mais en plus, je me sentais... je sais pas, je me sentais pas hyper bien, pas hyper énergique. Je me suis rendu compte que je mangeais pas forcément hyper bien. Et pourtant, Dieu sait que chez moi, on m'avait toujours appris à bien manger. Mais je sais pas, bon voilà, en étant étudiante, comme je disais, c'est pas forcément pareil. Mais voilà, j'ai eu une sorte de prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, je suis pas bien. Et je voudrais être mieux. Je suis pas au top de moi-même, et surtout je m'apporte pas, je ne m'offre pas le mieux que je pourrais m'offrir. Donc très concrètement, par exemple, je me suis rendu compte que je mangeais, tu vois, de façon un peu bon, classiquement, tu as plein de produits raffinés. J'étais assez addict au sucre, à tout ce qui était un peu les trucs un peu junk, enfin pas junk food forcément, mais bon, un peu genre les pizzas, les pâtes, etc. Enfin bon, simplement je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une alimentation qui était pas forcément hyper équilibrée, mais surtout pas forcément hyper nutritive, enfin voilà. Donc je me suis vachement intéressée à ça. J'ai beaucoup creusé le sujet, et en fait je suis partie dans une démarche un peu de mon rééquilibrage alimentaire. Je sais pas si c'est exactement le terme, parce que l'idée, c'était surtout en fait d'arriver à une alimentation plus qualitative, en fait. Donc plus de fait maison, moins de produits raffinés. J'ai aussi commencé à baisser beaucoup ma consommation de viande, justement, à apporter beaucoup plus de végétal dans mon alimentation, dans mon assiette, plus de saisonnalité aussi.
C'était une alimentation plus consciente.
Voilà, exactement, c'est ça. Et plus de variété aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de me nourrir mieux dans l'idée de m'apporter voilà un maximum de nutriments, de vitamines, etc. Plutôt que de rester dans des produits hyper qui me faisaient pas forcément du bien, disons. Et en fait, donc là à ce moment-là, j'étais vraiment orientée au départ. J'étais orientée plutôt santé en fait. Hein, c'était plutôt ça qui m'importait dans ce changement. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est quand même ça qui m'a finalement menée à l'idée d'un mode de vie plus green parce qu'en fait, ça a changé mon point de vue, mon regard en tant que consommatrice, tu vois, parce que j'ai appris à lire les étiquettes. J'ai commencé à prendre conscience vraiment de ce qui se cachait un peu derrière les aliments que j'achetais, tu vois. Et donc, au lieu d'être une consommatrice passive, qui achetait comme ça sans réfléchir, j'ai eu cet esprit critique qui est arrivé et cette idée de savoir ce que je mangeais, savoir ce que j'achetais, etc. Et c'est vraiment cet esprit qui s'est ensuite diffusé progressivement à tous les autres domaines de consommation pour moi. Donc voilà, après les cosmétiques, la santé aussi, puis la mode, la déco, enfin un peu tout. Et du coup, même si au départ c'était orienté un peu santé, c'est vrai que en creusant voilà sur ce qu'il y avait derrière les produits que j'achetais, voilà, j'aurais aussi pu apprendre plein de choses sur les dommages écologiques, etc. Et même avec le temps aussi sur tout l'aspect éthique, par exemple justement au niveau de la viande, etc. Ça a ouvert le chemin vers mon végétarisme après quelques années plus tard. Et à d'autres questions éthiques de manière générale, notamment sur l'impact social de beaucoup de produits, etc. Voilà.
Est-ce que l'envie aussi de partager tes découvertes avec tes lecteurs et tes lectrices t'a peut-être donné davantage envie de creuser le sujet, de te renseigner ? Est-ce que tu penses que ça t'a aussi poussé à mener d'autres recherches ?
Oui et non. Oui parce que effectivement, quand j'ai commencé à partager justement, donc au départ au niveau de l'alimentation, ça a eu un énorme impact. En fait, je pensais pas qu'il y aurait autant d'intérêt, mais quand j'ai commencé à partager justement cette démarche, j'ai eu énormément de retours. Beaucoup de gens étaient intéressés par les choix que je faisais, moi essayer d'en savoir plus, etc. Parce que je pense aussi, voilà, en 2011-2012. On ne parlait pas, ça arrivait doucement, mais on ne parlait pas encore beaucoup de tout ça. Et donc, je me souviens même aussi qu'il y avait, à l'époque, il y avait même aussi plein de gens qui... Enfin, j'avais eu des critiques parce que les gens comprenaient pas trop ma démarche ou me trouvaient un peu excessive ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est un peu plus mainstream, mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, du coup, je pense que j'ai apporté un regard un peu nouveau, voilà, un truc dont on n'entendait pas beaucoup parler. Et du coup, c'est vrai que ça m'a forcément, oui, incité à continuer à creuser le sujet et à essayer de partager sur ces sujets, parce que je voyais que ça intéressait. Mais avant tout, je dois le dire, enfin, très égoïstement, moi, je l'ai fait pour moi avant tout, hein, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très passionné, voilà, très passionné par certains sujets spécifiques qui m'intéressent, et je peux passer des heures et des heures à faire des recherches, à essayer de... Et en plus, je suis assez méticuleuse, parce que j'aime bien avoir des sources vraiment sûres, etc. Donc, je vais voir un peu les trucs de recherche scientifique, etc., pour essayer de baser mon discours, enfin, de le fonder de façon sûre. Et du coup... ça a été pour moi, en fait, c'était vraiment un nouveau monde de réflexion et d'information qui s'ouvrait, et c'était hyper, enfin, à la fois choquant dans certains aspects, mais aussi vraiment passionnant. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait spontanément parce que moi, ça me passionnait, et en fait, j'ai partagé au fur et à mesure de mon propre cheminement.
Ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point la porte d'entrée qui a été l'alimentation pour toi a finalement impacté toute ta vie.
Ah oui, absolument.
Puisque c'est ce que tu racontes dans ton ouvrage Green Life, mm-hmm. Mais tu parles aussi bien de beauté que de mode, que de décoration. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'une toute petite partie de ta vie qui était l'alimentation a déteint, mais dans le bon sens du terme, sur toutes les autres.
Absolument. Ça a pris des années, hein, cela dit, mais oui, c'est parce que je te dis, je pense qu'une fois que j'ai changé d'esprit, une fois que je suis devenue une consommatrice active au lieu de passive, après forcément on reste plus les yeux fermés, on veut savoir et on veut rester active justement sur tout le reste. Petit à petit, forcément ça se diffuse partout, parce que c'est vraiment un mode de vie, en fait, une philosophie générale.
Est-ce que après l'alimentation, ça a été d'abord la beauté, puis plus tardivement la mode, comme c'est le cas pour beaucoup de gens finalement, parce que c'est aussi selon les informations auxquelles on a accès, et la mode, ça fait seulement que depuis le Rana Plaza en 2013 qu'on commence à avoir quelques informations.
Oui, moi ça a été exactement ça, c'est passé de l'alimentation au cosmétique, et puis je dirais au bien-être en général, tu vois. Je me suis chez moi, il y avait toujours eu beaucoup de remèdes naturels, etc., mais Du coup, je me suis vraiment réintéressée aux plantes médicinales, aux huiles essentielles, ce genre de choses. Et puis après, effectivement, ça s'est passé à la mode, où j'ai eu vraiment aussi un déclic sur le côté à la fois extrêmement polluant et aussi l'impact social terrible de la fast fashion. Et puis ensuite, ça s'est globalement diffusé un peu sur tout le reste des produits de consommation, notamment tu vois, tout ce, même l'aménagement, enfin un peu tout. Maintenant, c'est vraiment je consomme plus du tout de la même façon et dans n'importe quel domaine que ce soit, même pour les petites choses, tout est un peu confiant. En tout cas, j'essaie de toujours faire le meilleur choix possible parce que ça s'est vraiment ça s'est vraiment étendu partout, quoi.
Tu l'as dit, juste après tes études, tu t'es lancée dans le blogging à plein temps. Mmh. Est-ce que cette transition, tu vois, par exemple, vers une mode plus éthique, est-ce que tu as eu une certaine appréhension en te disant « mais potentiellement, je risque de passer à côté de certaines opportunités professionnelles. » Comment est-ce que je vais concilier les deux ? J'imagine que ça n'a pas été évident.
Non, en effet, oui, c'est un peu le nerf de la guerre pour moi. C'est vraiment oui, enfin vraiment le problème central. En fait, moi je suis hyper contente, hyper heureuse et je me sens très chanceuse, voilà, de pouvoir faire un métier qui me correspond, qui me plaît, un métier vraiment que j'aime faire. Mais c'est vrai que l'influence ou du moins la création de contenu dans le domaine de l'éthique et du responsable. C'est alors à la fois c'est hyper satisfaisant et gratifiant parce que on a cette moi évidemment je suis motivée par cette envie d'apporter du positif, de créer des changements de mentalité, d'apporter des alternatives, etc. Donc c'est quelque chose que avec ça je peux faire, j'ai cette impression de transmission qui est très très satisfaisante et gratifiante, mais à la fois c'est évidemment très délicat parce que il faut toujours essayer de trouver la ligne juste par exemple, entre l'envie de mettre en avant justement plein d'alternatives qui naissent et à la fois ne pas trop inciter à la consommation, parce que c'est pas ce que je veux au final, tout en pouvant gagner ma vie, ce qui suppose de dépendre en partie d'annonceurs qui veulent promouvoir leurs produits. Enfin bon, c'est vraiment c'est un système probablement un peu bancal d'une certaine manière et avec lequel je jongle depuis des années en essayant de trouver ce qui est juste et ce qui est ce qui ne me trahit pas en tout cas. Ça demande des choix forts forcément parce que évidemment si je veux respecter ma ligne éditoriale, je dois refuser énormément de propositions. Ces dernières années ça va mieux, mais au départ par exemple c'était très compliqué parce que concrètement il y avait moins de marques qui proposaient des choses vraiment engagées, éthiques, écologiques, etc. Mais en plus, généralement, c'était des marques qui débutaient, qui n'avaient pas forcément de budget pour pouvoir me rémunérer, etc. Donc voilà, c'était pas forcément évident. Maintenant, de plus en plus, mais il faut savoir faire le tri aussi. Donc voilà, finalement, c'est une sorte de fil rouge. J'ai l'impression d'être constamment une sorte de funambule en train de marcher sur un fil. Globalement, ce que je fais personnellement, la façon dont je procède, c'est que j'essaye de suivre mon intuition et de m'écouter, tout simplement. C'est quelque chose, c'est vraiment, ça marche au feeling de manière très personnelle. Parfois, je me trompe encore. Ça m'arrive encore. Mais avec le temps, quand même, j'apprends à mieux comprendre mes limites et ce que j'ai plus envie de promouvoir, ou ce que au contraire je préfère promouvoir. Donc voilà, c'est un peu c'est pas forcément évident, mais à la fois c'est tellement, enfin pour moi en tout cas c'est tellement, enfin je suis tellement reconnaissante de pouvoir dédier mon temps à transmettre les valeurs qui sont importantes pour moi que voilà, pour moi ça vaut ce petit combat quotidien avec moi-même et les possibilités qu'il y a, quoi.
Bien sûr, après la différence pour toi versus une personne qui serait salariée d'une entreprise, c'est que comme tu es aussi l'image de ta propre marque, c'est aussi, Mango & Salt est incarné par toi, bien évidemment. C'est plus difficile, je pense, de dissocier tes engagements personnels de tes engagements professionnels et tu es obligé, comme tu le disais, de trouver cet équilibre. J'ai récemment lu l'ouvrage « Être écolo au boulot » d'Anthony Gachet et en fait où il expliquait que, bon déjà, moi je le rejoins sur ce sujet-là, mais notre travail ne nous définit pas. Lorsqu'on est salarié dans une entreprise, tu sais, quand on découvre un petit peu toutes ces, toutes ces conditions climatiques, ces enjeux, qu'on a envie d'agir, on peut vite se dire, attends, mais mon boulot, ça va pas. Mais en fait, il faut aussi réussir à se dissocier de ça et se rappeler que notre métier ne nous définit pas. Mais la difficulté pour les créateurs et créatrices de contenu comme toi, c'est que tu es ton métier.
Oui. Il n'y a pas vraiment cette... Oui, c'est sûr, il n'y a pas cette coupure entre mon métier et ce que moi je suis. Donc oui, c'est ça. C'est que tout m'engage, en fait. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Et en tout cas, j'ai l'impression que parfois de m'auto-mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Mais en même temps, je ne pourrais pas faire autrement, parce que sinon, pour moi, ça n'aurait aucun sens et ce serait complètement me trahir. Or, je fais ça justement pour pouvoir dédier ma vie à faire quelque chose qui pour moi a du sens et qui est ce que je veux transmettre, quoi.
Bien sûr, je comprends tout à fait. Les problématiques sont les mêmes pour un podcast écolo.
Oui, je vois. J'imagine bien que tu comprends.
Et donc, l'envie d'écrire un livre, tu le disais, tu as toujours été attirée par le journalisme, par cet univers de la rédaction. Comment est-ce que s'est présentée l'opportunité d'écrire ce livre? Est-ce que c'était un projet que tu avais mûri? Est-ce que tu as travaillé en amont avec une maison d'édition? Comment ça s'est fait?
Alors, c'était vraiment un projet que moi, j'avais depuis plusieurs années. Donc, le livre est sorti en 2017. Donc, en gros, j'ai signé mon contrat en 2016. Et déjà, je pense que ça faisait au moins 2 ans que j'avais cette envie. En fait, j'avais envie, à travers le blog, déjà évidemment, je transmettais un peu tout mon style de vie, mais j'avais envie d'avoir quelque chose déjà de plus pérenne, quelque chose de concret et quelque chose où je puisse vraiment rassembler un peu tout ce que j'avais à partager, ou toute ma vision en tout cas de comment on pouvait justement rendre la vie un peu plus green dans un même ouvrage. Donc, je me rappelle, j'avais déjà un peu préparé, j'avais vraiment une vision dans mon esprit. Et en fait, il se trouve que j'ai cherché des maisons d'édition pendant quelques temps. Et puis, une opportunité s'est présentée avec Larousse. Et du coup, j'ai pu finalement éditer mon livre avec eux. Donc, ça a été, en gros, le présenter rapidement, c'est une sorte de guide avec principalement des recettes de cuisine végétarienne, mais aussi un peu des conseils d'alimentation en général. Et puis avec ça, je voulais pas juste un livre de cuisine, je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus lifestyle. Donc j'ai rajouté aussi, il y a une partie do it yourself de beauté naturelle, enfin cosmétique, du bien-être, etc. En gros, un peu tout ce qui permet de vivre autrement et de manière un peu plus green. Donc voilà, ça a été un travail très compliqué parce que j'étais très ambitieuse, en fait. J'ai produit vraiment beaucoup, beaucoup de contenu par rapport à ce qui était probablement attendu au départ. Et en plus, j'avais un temps assez limité pour le réaliser et j'étais vraiment toute seule pour tout faire. Donc, j'ai même fini un peu en mini burn-out parce que c'était vraiment compliqué. Mais au final, je suis quand même assez fière de la qualité et de la quantité du contenu, en tout cas, qui est dans ce livre pour le prix qui coûte. Et je suis contente parce qu'il a été, très bien reçu. Et même encore 3 ans après, maintenant, je reçois beaucoup de messages encore pour me dire que, enfin, des gens qui me disent que c'est leur Bible, que vraiment ils s'y réfèrent encore régulièrement, etc. Donc, ça me fait plaisir d'avoir pu créer ça. Le seul drame de ce livre, c'est que, je sais même pas si j'en avais parlé quelque part de ça, donc c'est peut-être une exclue. Mais en fait, j'avais dans mon programme initial pour le livre, un peu dans la table des matières, il y avait tout un chapitre sur les plantes, en fait, parce que déjà à l'époque j'étais passionnée notamment de plantes d'intérieur, mais aussi je jardinais sur mon balcon et tout. Et pour moi, ça faisait vraiment partie de ce lifestyle que je voulais transmettre. Donc j'avais fait toute une partie sur les plantes et en fait je me suis comme un gros bêta, je me suis trompée en faisant mon sommaire. Tu vois, je devais faire un sommaire pour la maison d'édition pour qu'ils puissent faire le montage de tout le livre. Et en écrivant le sommaire, j'ai oublié d'écrire la partie plante. Du coup, j'ai quand même tout envoyé. J'ai envoyé tous mes dossiers, etc. Donc le chapitre plante était là, si tu veux, mais comme il n'était pas noté dans le sommaire, parce que justement à ce moment-là, c'était à la fin de la rédaction, ça faisait des mois que je travaillais comme une forcenée là-dessus, et donc j'étais fatiguée. Et tu vois, je me suis pas rendu compte. Et du coup, ils ne l'ont pas inclus. ils ne l'ont pas inclus dans le livre final. Et donc, voilà, c'était pas leur faute. Enfin, c'était un peu la faute de tout le monde ou la faute de personne parce que, voilà. Au final, c'est vrai qu'eux, ils suivaient simplement le sommaire. Et puis moi, je ne m'étais pas rendu compte que je ne l'avais pas mis dedans. Donc du coup, voilà. Il y a toute une partie plante qui n'a jamais été... Et on n'a pas pu la rajouter après parce que j'avais déjà tellement de contenu que ça remplissait déjà largement toutes les pages qui avaient été allouées au livre. Et du coup, c'était perdu. Donc voilà.
Mince, mais tu sais, c'est peut-être un signe.
Oui, peut-être qu'un jour, en fait, déjà, j'ai ce projet aussi depuis un certain temps. Mais un jour, si j'arrive à trouver le temps, ce sera peut-être justement la base... peut-être d'un autre livre.
Et donc, tu le disais en tout début d'épisode, tu habites aux Pays-Bas et à Amsterdam plus précisément depuis 5 ans. Est-ce que cette ville est propice à ta philosophie du slow living ?
Alors, absolument. Vraiment, c'est pour ça, je pense que j'ai eu vraiment un coup de cœur. Alors, j'ai adoré vivre à Barcelone, tu vois. Et on pourrait croire d'un côté que Barcelone c'est aussi super pour le slow living. Bon, d'un côté oui, tu vois, si je compare à Paris, certes, mais c'est vrai qu'il y a le soleil, la mer, la siesta, enfin, tu vois, mais en fait là-bas j'avais vraiment cette sensation quand même d'avoir une vie de grande ville, tu vois, une vie dans une capitale en fait. Alors que ici à Amsterdam c'est complètement différent, la sensation est vraiment c'est presque une sensation de grand village, en fait. Il y a une qualité de vie qui est vraiment excellente. Je pense que c'est lié au fait que la ville est à taille humaine, déjà, ça change. Il y a énormément de nature, autant en termes, tu vois, la nature publique, enfin les parcs, etc., que de la part des habitants, parce que c'est hyper mignon, mais tout le monde ici décore le devant des maisons, des immeubles, etc., avec plein de plantes. Vraiment, toutes les rues sont hyper fleuries, hyper vertes, enfin c'est super mignon. En plus, on a la culture du vélo, évidemment, qui fait qu'il y a peu de trafic, donc franchement, ça change tout aussi. Et puis même simplement le fait de faire du vélo, par exemple, vraiment la ville est construite de telle manière que il y a vraiment toutes les infrastructures qui protègent réellement les cyclistes, donc on peut faire du vélo de façon assez safe et tranquille, et vraiment ça change tout le rapport qu'on a aux distances et aux rues de la ville de manière générale, plutôt que de prendre le métro ou d'être dans une voiture, par exemple. Je trouve aussi qu'à Amsterdam, il y a ce côté, justement, comme on s'approche encore plus des pays du Nord, il y a un peu une culture proche comme ça, qu'on peut comparer avec un peu la culture suédoise et tout ça. Mais par exemple, ici, on n'a pas alors je ne sais plus comment on prononce ça, Hygge, je ne sais pas comment on dit ça. On n'a pas ça, on a le Reselik. Et en fait, le Reselik, c'est un terme aussi un peu pareil, tu vois, un terme intraduisible, mais qui évoque en fait des moments un peu, des jolis moments, des moments un peu cosy, en bonne compagnie, avec des gens qu'on aime, etc. C'est un peu, tu vois, le même style de sensation, enfin d'esprit en tout cas, que ce qu'il y a dans les pays scandinaves. Et on ressent vraiment ce côté Reselik dans la culture, dans la vie de tous les jours ici. Il y a plein de petits cafés hyper chouettes, tout est joliment décoré, même quand tu regardes les intérieurs des gens, si t'es un peu curieux et que tu regardes par la fenêtre, tu vois que les gens, tu vois, ils donnent beaucoup d'importance à la décoration de leur intérieur, tout est beau, tout est cosy, il y a des petites lumières partout, tout le monde a plein de plantes, enfin c'est vraiment, il y a cet esprit vraiment de bien-être et de confort et ouais, de cosy, qui fait que c'est vraiment propice, je trouve, à une vie plus ancrée, plus consciente et un peu plus douce. Ouais.
On a moins cette culture quand même du slow et du moment passé ensemble à Paris et en France d'une manière générale. On l'a un petit peu évidemment au café, mais c'est souvent en terrasse. Voilà, c'est pas du tout la même chose. On a plus cette culture de l'extérieur.
Exactement. Et ça, c'était pareil. À Barcelone, c'était très comme ça aussi. C'était vraiment la culture, effectivement, de sortir, d'être à l'extérieur, etc. Et c'est, je veux dire, c'est très chouette aussi, hein. Mais c'est pas ce même aspect cosy, un peu plus intérieur et ancré. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est différent.
En matière d'éveil écologique, ou en tout cas d'éveil de conscience, mm-hmm. quelle a été ta dernière ou ta plus récente prise de conscience? Quel a été le sujet qui t'a touché récemment et sur lequel t'as eu vraiment envie de te renseigner, envie aussi peut-être de le partager, de diffuser l'information?
Ce qui m'anime de manière générale, alors c'est pas hyper récent, mais ce qui m'anime de manière générale le plus, je pense, ces derniers mois, mais ça devient même presque ces dernières années, pour moi, c'est vraiment le côté de la seconde main, l'économie circulaire, etc. Je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que ça a répondu à pas mal de problématiques que j'avais de manière générale avec la consommation responsable, et notamment le fait qu'en fait j'avais perdu en essayant de consommer responsable. Bon, j'ai toujours ce côté quand je découvre, tu as une nouvelle démarche ou un nouvel quelque chose qui vraiment me parle, j'y vais toujours un peu à fond au départ, tu vois, et après il faut que je trouve un peu mon équilibre. Et je pense que je m'étais un petit peu perdue dans ce côté un côté très austère en fait de la consommation responsable, un peu du minimalisme d'une certaine manière, et puis simplement voilà le fait où je voulais rien acheter qui soit pas nécessaire, vraiment c'était vraiment tout était hyper réfléchi, etc. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais moi en fait je pense que ça me correspondait pas parce que j'ai perdu une certaine joie en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai perdu simplement la joie, tu vois, d'avoir des objets que j'aime, etc. Qui est une joie peut-être que dont tout le monde n'a pas besoin, hein, mais moi c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais perdu une petite flamme comme ça, où en fait par exemple pour les vêtements, tu vois, j'aimais plus du tout ce qu'il y avait dans mon placard, c'était des choses effectivement alors intemporelles, classiques, etc., mais je trouvais que ça n'avait aucune personnalité, ça me correspondait pas, ça m'inspirait pas, tu vois, ça me voilà. Et j'avais ça avec voilà dans un peu dans différents domaines où vraiment je me suis dit, mais en fait je suis évidemment très volontaire dans le fait de consommer de façon plus responsable, de consommer moins, etc. Mais je pense pas que ce soit durable si en fait ce qui se passe c'est qu'au final je suis frustrée, je suis un peu déprimée, je perds ma créativité et un peu simplement les petites joies du quotidien, tu vois. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait la seconde main pour moi c'est arrivé comme un peu une solution à ça. Enfin solution, j'aime pas ce terme, ça fait vraiment très définitive. C'est pas la solution miracle non plus, mais en tout cas c'était une alternative, quelque chose qui me permettait de rester dans une démarche aussi écologique et éthique que possible, tout en ne sacrifiant pas voilà ce côté un peu cette joie et le côté un peu plus personnel et un peu plus habité des objets que je voulais dont j'aime m'entourer. Donc autant pour enfin je veux dire en quelques années il y a quelques années encore j'achetais pas du tout d'occasion parce que c'était pas du tout mon truc, et même pour tout te dire j'étais même un peu ça me dégoûtait un peu en fait d'une certaine manière très concrètement, mais enfin voilà, c'était des petites appréhensions comme ça, et au final tu vois en 2-3 ans ça j'ai eu un revirement complet parce que maintenant c'est vraiment non seulement quelque chose qui me passionne, qui m'a apporté voilà beaucoup d'inspiration, beaucoup de joie, et que j'ai aussi vraiment envie de partager parce que c'est vraiment quelque chose en lequel je crois. Je trouve que c'est peut-être pas forcément la solution miracle pour tout, mais c'est une solution quand même très intéressante. Au lieu de produire plus, de simplement réutiliser ce qui existe déjà. Et plus le temps avance, plus j'ai l'impression que c'est vraiment l'une des meilleures solutions dans plein de domaines. Simplement le fait de, parce que tout ce qu'on produit, forcément, ça va forcément avoir un impact. Alors que réutiliser des choses qui existent déjà, c'est rien que pour l'impact, voilà, en termes de matières premières, etc. C'est déjà largement réduit. Donc voilà, pour moi, ça c'est un peu ma grande cause du moment et ce que j'essaye de transmettre ces dernières années. Voilà, je sais pas si ça peut répondre à ta question.
Ça y répond complètement. Et puis, comme tu le disais, ça t'a réapporté une dose de créativité. Tu as récemment en plus publié. Alors, je sais plus si c'est sur ton blog ou sur Instagram, mais en tout cas un guide pour choper et acheter des jeans vintage,
oui, sur Instagram,
des certains modèles, etc.
Oui, je comprends très bien les appréhensions, enfin toutes sortes d'appréhensions qu'il peut y avoir, parce que effectivement acheter en seconde main, c'est pas du tout aussi facile ni aussi automatique que de simplement aller au magasin du coin et prendre sa taille et c'est fini, quoi. Donc je sais que c'est pas forcément évident, mais moi j'y ai trouvé une telle satisfaction et une telle réponse parfaite à la fois à mes envies et à mes valeurs que j'y crois profondément. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie effectivement de démocratiser et simplement de donner des clés à ma communauté pour essayer de peut-être de se lancer ou de tester, de voir si ça peut leur plaire, parce que souvent les petites appréhensions de départ, elles peuvent être, elles peuvent s'effacer avec le temps, simplement avec l'expérience ou en ayant un peu d'informations, quoi. Donc, si on a le temps parfois de se donner le temps justement de chercher, enfin de prendre le temps de chercher une pièce en seconde main, chercher quelque chose qui nous corresponde vraiment, etc. Justement, oui, ça permet de rendre tout le processus d'achat beaucoup plus conscient et au final de faire, on l'espère, des choix plus raisonnés et qui ont plus de sens. Parce que justement, ça nous donne un autre rythme. On arrête d'être dans ce système du tout immédiat, tout instantané. Et du coup, ça nous permet effectivement de faire des achats a priori plus réfléchis et qui, du coup, je trouve, ont une valeur bien plus grande, enfin, ne serait-ce que sentimentale, bien plus grande, parce que la différence entre le t-shirt que je suis juste allée chercher en passant au magasin H&M et un t-shirt, je sais pas, vintage, je sais pas quoi, que j'ai trouvé après genre 10 jours à mettre des alertes partout, etc., et que je suis tombée enfin sur le truc que je cherchais, etc., ça n'a rien à voir, quoi. La satisfaction et la joie qu'apporte ensuite cette pièce, c'est le jour et la nuit, quoi. Peut-être rappelons juste que la seconde main, c'est pas forcément des vieux trucs poussiéreux qui sentent la cave. Ça peut être aussi, c'est bête, mais par exemple, quand on sait que dans certaines grandes marques, etc., quand on fait un retour, par exemple, d'une pièce qui était pas à notre taille ou qu'on veut retourner parce qu'elle nous plaît pas, que parfois certaines de ces enseignes se débarrassent, enfin détruisent la pièce plutôt que de la remettre en vente. Et ben, ça, je trouve ça absolument scandaleux, quoi. Et en fait, parfois, ça peut être juste ça. Ça peut être juste un système, enfin. Ça peut permettre peut-être à une personne qui a fait une erreur d'achat de du coup transmettre son achat à quelqu'un d'autre, de le revendre à quelqu'un d'autre qui cette personne, il ou elle va vraiment aimer et pouvoir porter la pièce plutôt qu'elle soit détruite, par exemple.
Bien sûr, c'est vrai que en fait cette industrie est tellement opaque que c'est difficile d'avoir accès aux informations et c'est difficile de prendre conscience de tout le gâchis qu'il y a derrière, que ce soit à l'étape prototypage, à l'étape production ou comme tu le disais à l'étape des retours. Avant qu'on termine cet épisode très intéressant, je voulais revenir avec toi pour que peut-être tu nous donnes des pistes et des conseils, ou en tout cas que tu nous partages ton expérience, toi qui, j'imagine, comme tout le monde qui travaille dans cet univers, est confronté sans cesse à des injonctions écolo. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Comment est-ce que tu arrives aussi à prendre du recul face à l'anxiété que ça peut générer?
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'il faut se rappeler, enfin ce qu'il faut garder en tête, c'est que on peut pas, et d'un côté c'est triste, mais on peut pas être sur tous les fronts, on peut pas être dans tous les combats du monde, quoi, parce que c'est déjà il y en a infiniment trop. Malheureusement, on est dans un monde qui ne manque pas de causes à soutenir, mais en plus, je trouve que c'est contre-productif, parce qu'on peut pas dédier toute son énergie à ça, parce que justement pour pouvoir essayer de faire changer les choses, il faut aussi garder de l'énergie et aussi se préserver pour pouvoir agir de façon efficace. Donc je pense que peut-être l'une des premières choses à dire aux personnes qui peut-être ont cette anxiété, ne savent plus quoi faire, etc., et ont des injonctions de partout, ne savent plus quoi en faire. En fait, je pense que moi, ma manière de réagir, c'est de vraiment me centrer sur les choses qui me parlent le plus. Peut-être essayer de choisir des axes spécifiques ou des causes qui nous tiennent à cœur particulièrement ou avec lesquelles on a le plus d'affinité. Je sais qu'il y a cette urgence climatique qui fait que il y a une sorte de pression. On a envie que les choses changent vite, etc. Mais il faut, on est humain en fait, et le facteur humain fait que on a tous, enfin, les choses vont pas d'un claquement de doigts comme ça. Il faut, on a besoin de temps. Moi, j'en ai eu l'expérience parce que ça m'a pris des années justement pour vraiment changer toute ma façon de consommer, etc. Et encore, j'ai encore plein d'efforts à faire. Donc, on a besoin de, même malgré l'urgence, on a besoin de temps pour apprendre, besoin de temps pour intégrer les choses de façon durable aussi. Parce que si c'est pour commencer à prendre 10 000 nouvelles habitudes et en fait laisser tomber au bout de 2 mois parce qu'en fait on n'en peut plus, on comprend rien, etc. C'est pas forcément hyper pertinent non plus. On a besoin de temps ensuite pour transmettre, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Et d'un côté, si ça permet justement de créer petit à petit un changement plus profond et mieux ancré, alors ça en vaut peut-être la peine, même si on aurait envie que ça aille plus vite. Mais du coup. Voilà, tout ça pour dire que on peut pas être partout à la fois. Donc, pour moi, l'idée, c'est, enfin, peut-être parce que voilà, je suis une personne qui a tendance à prendre les choses avec le cœur. Bah moi, j'essaye de suivre mon cœur, voilà, d'une certaine manière, en suivant prioritairement les causes qui me touchent le plus, et en me rappelant toujours cet aspect, enfin, en restant bienveillant, quoi. Simplement, on est humain, quoi. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire très très vite. Il faut cette patience et je crois que si on ose se lancer avec bonne volonté et bienveillance, même si ça prend du temps, au final ça en vaut la peine quand même, et c'est quand même un changement qui, enfin, le temps que ça prend, ça c'est finalement, au final, c'est pas si négatif que ça, parce que justement, si ça permet d'approfondir les choses et de faire les choses bien, alors il faut prendre ce temps. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair, encore une fois.
C'est très clair et c'est parfait. Merci beaucoup, Victoria, pour cet échange. C'était très intéressant.
Merci à toi.
Je renverrai bien évidemment les auditrices et les auditeurs vers ton blog et ton compte Instagram pour celles et ceux qui peut-être ne te connaîtraient pas encore. Et puis, à très bientôt. Merci.
À très bientôt. Merci.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, vous pourrez retrouver des ressources complémentaires à l'épisode dans la barre de description. Si vous avez aimé cet entretien avec Victoria, n'hésitez pas à le partager à votre entourage et à me laisser des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast favorite, ou tout simplement à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel hors-série et jeudi pour une nouvelle interview. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.